voudrais dire trois petites choses avant de reprendre la dernière session. La première, c'est vérifiez bien que vous avez, si vous le souhaitez, remis le document avec vos suggestions pour une prochaine activité dans l'urne qui se trouve à côté de les inscriptions. Il est écrit dessus « boîte à idées ». C'est écrit au BIC « boîte à idées ». Et si vous voulez, c'est le moment en fait de mettre ce que vous souhaitez. On analysera. Je pense qu'on fera quelque chose, hein, Benoît. Il me semble qu'il y a vraiment une demande. Alors, la deuxième chose, c'est qu'il y a un collègue de qui est à l'Académie, Christian Van Armodon, qui me disait que peut-être que on pourrait, dans le cadre de l'Académie, ils ont des petites publications, on pourrait peut-être essayer de voir si on ne pourrait pas publier ceci, ce qui fait que ce que je disais aux orateurs, qu'ils devraient nous envoyer un document qu'on allait mettre sur le site et quelqu'un disait que ça ne vaudrait rien, hein, pour l'évaluation. Bon, peut-être que ça vaudra un tout petit peu, parce que si ça passe dans l'Académie. Mais donc, on vous dira exactement le format. Et la dernière chose, c'est que je voudrais remercier Marine Lugène qui a vraiment fait énormément pour ce colloque d'une façon très efficace, alors qu'elle est chercheuse, elle essaye d'obtenir un financement pour son doctorat. Et voilà, elle a fait vraiment de très bonnes grâces et vraiment très bien.
Merci Edwin. Donc la dernière partie de cette journée où nous accueillons et où nous allons écouter maintenant des gestionnaires de la recherche. Hein, c'est l'autre côté. Hein, voilà. Ceux qui assument la responsabilité de tout ce qui ne va pas, hein, globalement. Et donc, nous allons commencer avec Jean-Pierre Bourguignon, président du Conseil européen de la recherche. Après quoi, je donnerai la parole à Véronique Alloin, secrétaire générale du FNRS. Et enfin, Serge Schiffmann, qui est vice-recteur à la recherche de l'ULB. Ce qui a été proposé, c'est qu'ils interviennent librement pendant une dizaine de minutes chacun en réaction à ce qu'ils ont entendu, aussi bien qu'en ajoutant des éléments qui leur paraissent importants. Après quoi, je me permettrai éventuellement de poser l'une ou l'autre question. Et puis surtout, je donnerai la parole à la salle pour un échange général à leur adresse. Et il me reviendra de conclure, si tant est qu'on puisse conclure là-dessus. Mais enfin, voilà, il faut toujours un mot de conclusion, donc je l'assumerai. Voilà, donc, Monsieur Bourguignon, merci beaucoup.
Merci pour l'invitation. Je ne me considère pas tout à fait comme un gestionnaire de la recherche, mais bon, je vais essayer quand même de me positionner dans ce contexte. Donc, juste un mot sur le Conseil européen de la recherche qui, comme vous savez, maintenant existe depuis 8 ans, était une demande de la communauté scientifique pour laquelle elle s'est battue pendant une vingtaine d'années pour sortir des programmes de la Commission européenne qui étaient dans un contexte défini par les traités qui était que la recherche n'était pertinente que parce qu'elle contribuait à la cohésion et soit elle contribuait à la création de richesses, wealth creation, et que la recherche en tant que telle ne faisait pas partie des responsabilités de la Commission européenne. Donc, une toute petite anticipation au traité de Lisbonne, en fait, la recherche a eu droit à un programme en tant que tel, qui est donc le Conseil européen de la recherche. Alors, par rapport aux discussions qui ont été... Donc, du coup, le schéma même de l'ERC a été vraiment celui qui a été voulu par les chercheurs. Et la principale originalité de ce programme, par rapport aux autres programmes de la Commission, c'est le fait que la responsabilité fondamentale, à savoir comment on répartit l'argent et comment on évalue, est strictement entre les mains du conseil scientifique de l'ERC, ce qui évidemment est assez scandaleux vu de la part d'un certain nombre de membres de la Commission européenne qui considèrent que c'est inadmissible que des scientifiques aient cette responsabilité. Donc c'est dans ce contexte que je me retrouve président de l'ERC, c'est-à-dire avec la responsabilité de présider le conseil scientifique. Moi, j'avais trois remarques sur les débats que j'ai entendus, qui m'ont beaucoup intéressé, et aussi dans leur diversité. La première, c'est que je crois que c'est très important, c'est que quand on regarde la recherche, de penser à ça comme un système. Et que ce système, forcément, si on en isole un élément des autres, on arrive à une sensation de non-pertinence, de déséquilibre. Et d'une certaine façon, si on réduit la recherche à sa composante ERC, par exemple, on arrive à quelque chose d'absurde. Et l'ERC avait une fonction assez bien définie, qui était de créer à l'échelle européenne un système compétitif. Mais évidemment, il doit être complété par d'autres formes de soutien. Et malheureusement, une de mes tâches, c'est évidemment, en tant que président de l'ERC, d'aller rencontrer les ministres ou les secrétaires d'État. Ça m'arrive plus souvent que je n'imaginais que ça allait se passer. Et je dois dire que la situation est extrêmement diverse. C'est-à-dire qu'il y a des pays dans lesquels cette conscience qu'il y a des financements européens d'une certaine, d'un certain profil, donc que ce soit l'ERC, que ce soit d'autres programmes d'Horizon 2020, et il y a des programmes nationaux, il y a des programmes des fondations. Et donc, en tout cas, pour ce qui tombe dans la responsabilité des ministres et des secrétaires d'État, à eux de s'assurer qu'on a une couverture globale correcte. Ça n'est pas le cas dans certains pays ou dans lesquels il n'y a plus du tout de soutien à la recherche qui n'est pas décidé par le gouvernement. J'ai même entendu un secrétaire d'État, je ne dirai pas dans quel pays, enfin un ministre, pardon, me dire ouvertement dans une séance publique à laquelle j'étais enfin, en débat avec lui que si les scientifiques veulent de l'argent du gouvernement, ils doivent faire ce qu'on leur dit de faire. Voilà, donc c'était sans ambiguïté. Évidemment, j'ai pas dit, j'ai dit ce que j'en pensais, donc il n'était pas content. Mais voilà, donc c'est aussi, ça existe dans ce contexte. Dans d'autres pays, c'est pas du tout comme ça. Il y a un vrai soutien à la recherche en tant que telle, indépendamment des objectifs, disons, stratégiques du gouvernement. Donc je pense, si on ne pense pas à ce système comme un système global, et dans lequel, en particulier, pour moi, c'est une évidence que le fait que des gens aient été embauchés de façon extrêmement sélective dans les métiers de la recherche, que ce soit du côté universitaire strict ou du côté des institutions de recherche, ça veut dire qu'on leur doit un minimum de confiance et que donc il doit y avoir des fonds minimaux pour fonctionner de base. Après ça, s'ils ont des projets plus ambitieux, plus globaux, etc., c'est normal qu'ils cherchent des financements supplémentaires. Et malheureusement, ce n'est pas ça la situation d'un certain nombre de pays. On citait le cas de l'Italie. J'étais il n'y a pas longtemps à Milan, dans un des très bons départements de mathématiques et dans lequel mes collègues m'ont dit « Moi, pour voyager par an, j'ai 150 euros. » Voilà. Donc, c'est ça la situation concrète que rencontrent certains départements. Donc, évidemment, c'est un peu difficile de se promener beaucoup et de participer à beaucoup de conférences, sauf à de les payer de sa poche. Ça, c'était ma première remarque. Donc, c'est vraiment important d'en avoir une approche comme un système. Et l'ERC est une pièce dans ce système. Et s'il y a des pièces qui manquent ailleurs, c'est sûr que l'ERC va apparaître comme outrecuidant ou abusif, etc. La deuxième chose qui, moi, me frappe, et vraiment, c'est une chose que je n'arrête pas de répéter parce que je pense qu'elle n'est pas assez intériorisée, pour des raisons d'ailleurs assez naturelles, qui sont que chacun vit dans son monde en tant que chercheur, c'est l'extrême diversité des pratiques de la recherche d'une discipline à l'autre. Alors, cette extrême diversité, elle a énormément d'aspects. Elle a des aspects sur quelle est la taille critique pour faire la recherche suivant les domaines. Il y a des domaines en dessous de 50 personnes, on ne peut pas travailler. Il y a des domaines où l'unité de base, c'est une personne. Et donc, évidemment, ce n'est pas la même chose. Les unités de temps ne sont pas la même. La temporalité n'est pas la même. Dans un certain nombre de disciplines, les gens dépendent complètement d'instruments qu'on met 10 ans à construire. Et à construire en tous les sens du terme, c'est-à-dire aussi bien comme objet financier que comme objet technique. Il y a d'autres domaines dans lesquels, par exemple, un domaine qui est devenu très prégnant dans ces modèles par rapport au reste de la recherche, qui est la biologie, où ce qui est devenu la règle de vie, c'est vraiment des petites équipes de 5 à 10 personnes regroupés dans des instituts où on partage des outils, mais quand même l'unité de base, c'est ces petites unités. Et donc, du coup, c'est vrai que ça a tendance un peu dans le monde entier à, d'une certaine façon, uniformiser l'organisation de la recherche. La recherche est organisée sur la base de projets présentés par un chef d'équipe qui construit autour de lui, spécialement avec des doctorants et des post-docs, un travail qui, avec une échelle de temps qui est typiquement 3 ans, voilà. Donc, il faut voir donc il y a à la fois des modèles prégnants parce que la biologie est devenue, se déclare quelquefois la science du 21e siècle et donc est devenue la référence, alors que, en fait, les pratiques ne sont pas du tout les mêmes. Comme vous imaginez aussi, les besoins financiers ne sont pas du tout les mêmes d'une discipline à l'autre. Et dans mon domaine, je suis mathématicien, c'est clair que, par exemple, les soutiens donnés par l'ERC ont tendance à être des soutiens dont le volume déséquilibre la vie des institutions, parce que c'est beaucoup plus que ce qui est le fonctionnement normal. Voilà, dans d'autres disciplines, on sent bien que même les crédits qui apparaissent généreux de l'ERC, pour certains domaines, en fait, ne sont pas suffisants. C'est-à-dire que les gens ont besoin d'avoir à côté de leur contrat ERC, qui est pourtant, a priori, un contrat plutôt favorable, d'autres financements. Et alors, du coup, vous voyez bien, sur le plan la justification. Vous êtes censé consacrer tant de temps à un projet parce qu'il y a tant d'argent, mais en fait, on ne vous donne pas assez d'argent pour faire le projet. Comment vous faites, quoi. Donc, je crois qu'il faut vraiment faire très attention à ça. Alors, l'autre chose que je voudrais dire, je vais finir sur cette question de la diversité, c'est d'une certaine façon la signification de la production de la recherche. D'une discipline à l'autre, les modes de reconnaissance ne sont pas les mêmes. Dans un certain nombre de disciplines, la mienne en particulier, les publications sont peu nombreuses et les vraies publications qui comptent, en fait, ont un impact à une échelle de 10 ans. Et regarder au bout de 2 ans si le papier a été cité n'a simplement aucun sens, parce que la moyenne d'âge de citation des papiers en maths, c'est entre 8 et 9 ans. Donc si vous prenez des systèmes qui regardent les citations à 2 ans, simplement, ça ne vous donne rien. C'est une information vide. Donc c'est pour ça que chez les mathématiciens, le H-index, on ne sait même pas ce que c'est. Donc on ne regarde pas parce qu'il n'a pas de sens. Donc, et dans d'autres disciplines, au contraire, c'est devenu la religion absolue. Donc moi, en tant que président de l'ERC, un de mes jobs, c'est, les fois que je fais le briefing des panels, c'est de leur dire... arrêter avec les indices, parce que suivant les contextes, et même à l'intérieur d'une même discipline, suivant dans l'environnement où vous êtes, ça a un sens ou ça n'a pas de sens. Donc c'est cette variété des modes de production et des modes de reconnaissance, c'est une chose, à mon avis, qui est extrêmement importante à accepter, à reconnaître, à identifier. Et ce n'est pas si simple, parce que, par exemple, une discussion qu'on a maintenant, qui devient extrêmement prégnante, on a déjà eu open access, donc l'accès libre aux publications, qui a priori est une chose qui paraît positive, etc. On sait bien ce qu'il y a sous-jacent du point de vue économique, qui n'est pas du tout banal. Mais maintenant, on est en train de discuter la question d'accès libre aux données. Et accès libre aux données, ça a énormément d'aspects compliqués. Il y a des disciplines dans lesquelles c'est une banalité totale, c'est déjà en place, il y a les gens compétents pour le faire, il y a les protocoles, tout est en place. Il y a des disciplines dans lesquelles les gens n'ont pas encore la moindre idée de comment ça peut se faire. Et là, un certain nombre d'institutions, je pense à l'ERC en particulier, sont confrontées au fait qu'il y a la volonté politique, en particulier au niveau de la Commission européenne, d'aller très rapidement vers de l'accès libre aux données. Le problème, c'est que ce n'est pas avec des contrats, même à 5 ans, qu'on va construire l'environnement, disons, l'espèce d'écosystème dans lequel on peut faire de l'accès libre aux données. Parce qu'il faut des gens formés dans la durée, qui sont compétents. Il faut que tout le monde se mette d'accord sur des protocoles. Ce n'est pas une équipe qui va définir comment on partage les données. S'il n'y a pas un accord d'une communauté pertinente autour de ça, ça n'a pas de sens. Donc vous voyez bien que dès qu'on isole, quand on regarde des enjeux à long terme comme ceux-là, la seule chose, c'est que ce soit une question qui est traitée globalement par la communauté de recherche. Et de ce point de vue-là, aussi bien sur open access pour les publications, accès libre pour les publications, que pour les questions de partage des données, je trouve personnellement, et en tout cas en tant que mathématicien, je me suis battu dans ma communauté, que les communautés scientifiques, je pense aux sociétés savantes, n'ont pas fait leur boulot de s'organiser collectivement pour faire émerger des pratiques. Et là encore, évidemment, les pratiques ne vont pas être les mêmes d'une discipline à l'autre, parce que les règles de vie et la valeur d'une publication n'est pas la même. Et alors le dernier point, et je vais terminer là-dessus, que je voulais souligner, et ça c'est une chose qui me tient beaucoup à cœur en tant que président de l'ERC, en tout cas on s'organise pour ça, c'est de regarder après quel est l'impact dans la communauté des différentes choses qui se mettent en place. Et donc une étude qu'on met en place au niveau de l'ERC, qui va démarrer en 2016, on y a mis quand même une somme d'argent assez considérable, c'est de savoir un peu l'impact sur la carrière des gens. Mais quand je dis la carrière des gens, c'est pas seulement ce qu'on appelle PI, Principal Investigators, ceux qui portent les projets, mais aussi les gens qui travaillent dans les équipes. Donc aussi bien les doctorants que les post-doctorants, voire d'autres collaborateurs. Et ça, ça nous intéresse beaucoup de voir comment la participation à une équipe ERC a changé leur carrière. Qu'est-ce qu'il y a sous-jacent à ça? Une chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que les statistiques d'emploi des chercheurs à l'échelle européenne sont totalement biaisées. Et donc, vu de la Commission, tout se passe bien. Tous les 2 ans, on a 4% de plus de chercheurs en Europe. Donc, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ce n'est pas du tout ça la réalité. Enfin, si vous baladez dans le monde de la recherche, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas 4% de plus de chercheurs comme ça régulièrement hein, tous les 2 ans. En fait, il s'est passé que d'un pays à l'autre, et sans qu'il y ait eu de coordination, semble-t-il, on a incorporé dans le monde de la recherche typiquement les doctorants maintenant qui sont des chercheurs, mais chaque pays l'a fait quand il a pensé qu'il était utile de le faire, donc on ne compte plus les mêmes personnes, donc évidemment on en a plus, mais on ne compte plus les mêmes. Alors, moi ça ne me pose pas du tout de problème de compter les doctorants parmi les chercheurs, mais il faut savoir de quoi on parle. Quoi. Voilà. Donc on n'a pas du tout de statistiques là-dessus fiables. Et ça, c'est dommage, parce qu'en moyenne, Eurostat fait quand même plutôt un bon boulot. Mais là, apparemment, ça ne marche pas. Et l'autre chose qui est gravissime, c'est qu'on n'a pas de décompte des emplois qui sont des emplois durables par rapport aux emplois instables. Et on sait bien, enfin, pays par pays, enfin, je ne connais pas la situation pour la Belgique, mais je connais la situation pour la France, on a connu dans les 15 dernières années un transfert assez massif des emplois stables vers des emplois instables. Le seul pays, je crois, où il y a un décompte à peu près sérieux, qui est le Danemark. On est passé de 60% d'emplois en 1995, de 60% d'emplois stables, 40% d'emplois instables, à exactement la proportion inverse, donc en 2011. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un déplacement massif vers des emplois instables. Et on voit bien ce que ça a comme conséquence. C'est les conséquences sur la vie des jeunes chercheurs dont on a entendu parler, sur la difficulté pour eux d'imaginer si on pourra rester, pas pouvoir rester, etc. Et aux États-Unis, ça a provoqué des ravages considérables. Au niveau des NIH, par exemple, maintenant, il y a un programme massif de requalification de gens qui ont épuisé leur possibilité de faire des post-docs. Et même pour certains qui étaient médecins, ont perdu leur qualification de médecin parce qu'ils n'ont pas pratiqué la médecine pendant suffisamment longtemps. Et donc, NIH, maintenant, donc pour les gens au-delà de 40 ans, un programme assez massif pour simplement rebasculer dans la société civile des gens qui ont, et qui probablement ont été productifs, enfin, ils n'ont pas du tout été déméritants, mais le système les a totalement écartés. Donc voilà, donc je pense que c'est très important que les institutions, en tout cas, au niveau de l'ERC, on essaye de le faire, se préoccupent de l'impact de leur existence sur le système globalement. Alors évidemment, on est obligé de le faire avec notre fenêtre, qui est les gens qui sont liés à des équipes ERC, mais je pense que c'est une chose, en tout cas, de mes premiers plaidoyers en direction du nouveau commissaire, a été, vous ne pouvez pas continuer à avoir la responsabilité d'un secteur où vous ne savez même pas qui est employé, ni comment l'emploi a évolué. C'est une variable décisive, en tout cas dans nos milieux, on sait bien ce qui fait la différence, les gens, ce n'est pas les structures. Et donc, on a besoin de savoir qui sont les gens qui font la recherche. Merci.